Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Emmanuel Macron, aujourd'hui à Toulouse, pour affirmer les ambitions européennes dans l'espace, avec pourquoi pas l'annonce de vols habités. L'Info C'est Clair est intitulé Espace, mission Mars pour Macron. Nos invités, Nathalie Tingeau, vous êtes chargée de relations internationales et chef de projet Histoire de l'ESA, c'est l'agence spatiale européenne. François Forget, vous êtes chercheur, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace, planétologue, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, auteur de La planète Mars, Histoire d'un autre monde, c'est aux éditions Belin pour la science. Et enfin, Nicolas Châteauneuf, vous êtes journaliste sciences et environnement à France Télévisions. Merci à tous les trois de participer à cette émission en direct. Donc après la Lune, objectif Mars, c'est le nouvel horizon en tous les cas des milliardaires américains, en l'occurrence Elon Musk et Jeff Bezos, respectivement patrons de Tesla et Amazon. Alors réussiront-ils dans l'espace ce qu'ils ont merveilleusement réussi sur Terre? Élément de réponse avec Loïc Delamornay.
C'est le nouveau terrain de jeu des multimilliardaires, de jeu ou de folie, tant les projets sont délirants chez les géants de la Silicon Valley. Elon Musk, Jeff Bezos et dans la foulée Richard Branson ou Larry Page, cofondateurs de Google, sont tous persuadés que l'avenir de l'humanité est dans l'espace. Elon Musk faisait encore sourire il y a quelques années. Mais depuis l'an dernier, le fondateur de Tesla et de SpaceX est devenu le premier patron d'entreprise privée à envoyer des hommes et même les astronautes de la NASA dans l'espace. Et il a les yeux et sa fortune de 190 milliards de dollars rivés vers Mars.
Il est important que l'humanité devienne une espèce multiplanète. Un futur où nous devenons une civilisation à la conquête des étoiles est plus excitant que rester à jamais sur notre seule Terre jusqu'à notre extinction inévitable.
Son nouveau vaisseau, l'imposant Starship, qui pourrait emmener 100 passagers, est déjà en test au Texas. Le dernier essai, il y a 15 jours, n'est pas encore concluant. Elon Musk promet un premier vol habité vers Mars dès 2026 et carrément 1 million de colons sur la planète rouge d'ici 2050. Son rival Jeff Bezos est doté de la même puissance financière. Le patron d'Amazon pense qu'à terme 90% de l'humanité vivra dans l'espace, dans des cités-cylindres géantes. La rotation reproduira la gravité et permettra l'agriculture.
Si nos industries et notre population continuent à croître, l'espace sera le seul endroit où aller. La Terre finira par être une magnifique zone de résidence et d'industrie légère. On viendra en visite ou y faire des études, mais tout le reste, et notamment les industries polluantes, sera fait en dehors de notre planète.
Eau sur la Lune, minerais dans les astéroïdes, l'espace sera un nouveau champ économique et sûrement militaire aussi. La NASA a prévu un retour sur la Lune d'ici 2024 et Mars pas avant 2033, un calendrier déjà jugé trop optimiste.
Oui, je sais. Alors, Nicolas Châteauneuf, on a vu ces grands capitaines d'industrie, Elon Musk, Jeff Bezos, nous faire rêver. Ce ne sont pas des uluberlus. Emmanuel Macron, président de la France, que va-t-il nous faire rêver cet après-midi à Toulouse, puisqu'à 14h30, il s'exprimera depuis l'une des capitales européennes de l'espace.
Alors, je ne sais pas s'il va nous annoncer que nous allons tous aller sur Mars. J'en doute quand même légèrement.
Bah oui, on a peur d'être déçus.
C'est ça, voilà. Mais non, mais ce qui est sûr, c'est que y a une volonté, là, actuellement, de remettre les Européens dans une sorte d'autonomie stratégique vis-à-vis de l'espace. Comme ça bouge, comme il y a une résurgence de toutes les activités spatiales depuis quelques années, avec l'arrivée justement des nouveaux acteurs dont vous avez parlé, eh bien ça bouge dans tous les sens. Il y a aussi une compétition géopolitique. Et donc l'Europe, et Emmanuel Macron, il est président de la République française, mais il est actuellement également, il est président également au niveau
de l'Union européenne.
De l'Union européenne, exactement. Et donc il y a une volonté claire et manifeste de remettre l'Europe dans le vol habité. Parce que pour l'instant, nous étions évidemment totalement dépendants des Russes et des Américains.
Donc, la fusée Ariane, personne ne peut aller dans la fusée Ariane. On ne peut mettre que des satellites. Vous ne pouvez pas y aller.
Hein. Aujourd'hui, non. C'est
aucun
impossible.
Astronaute
si on veut envoyer des astronautes européens, il faut demander la permission d'abord aux Russes et aux Américains.
Donc, eux ont des fusées qui peuvent embarquer des hommes.
Exactement. Et les Chinois également. Mais l'idée, là, il y a une petite nouveauté, c'est de dire, on va peut-être commencer à travailler sur la possibilité d'envoyer des astronautes européens par nos propres moyens. Ça, c'est la nouveauté, je pense qu'on va entendre, mais il y a d'autres choses également.
Il y a d'autres choses, parce que François Forget, est-ce qu'on se trompe en disant, au fond, il y a deux visions de l'espace. Il y a l'espace des satellites télécoms, bon, bah, c'est un business. Et puis, il y a l'espace, pardon, des livres qu'on a tous lus dans notre enfance, on va en voir un. C'est l'espace qui fait rêver, qui a peut-être inspiré d'ailleurs Elon Musk et Jeff Bezos. C'est l'espace de « On a marché sur la Lune » de Tintin. C'est la conquête, c'est la nouveauté. C'est l'esprit peut-être qui insufflait Christophe Colomb quand il est parti, quand il a pris le grand large. C'était peut-être pas pour gagner de l'argent, c'était peut-être pour la découverte d'un nouveau monde.
Je dirais bien qu'il y a trois espaces, pour s'y reprendre. Il y a effectivement un espace qui se développe, qui est important, qui est un espace business maintenant. Donc c'est un peu l'esprit d'ailleurs de notre gouvernement, qui nous inquiète parfois.
Ben oui, on a l'impression que pour nous, l'espace, c'est qu'un marché où on va mettre des satellites pour téléphoner.
Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. Par ailleurs, vous avez un espace quand même scientifique, que ce soit pour comprendre notre planète ou explorer ailleurs, un espace scientifique avec des robots, des missions scientifiques qui coûtent le même prix qu'un observatoire, qu'une expérience de physique. Donc c'est de la science pure qu'il faut faire, enfin je pense, et qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne la Terre, par exemple. Et puis, il y a enfin l'homme dans l'espace, l'exploration spatiale avec les astronautes, Thomas Pesquet, des projets sur la Lune, etc. Et ça, c'est encore un autre concept parce que c'est un petit peu plus irrationnel, finalement. Ça, c'est tellement cher, on va dire, que la science pure ne le justifie pas. On a du mal à se tourner vers un physicien, voire un cancérologue pour lui dire « Non, non, mais nous, on a besoin de centaines de milliards pour aller voir les cailloux sur Mars avec des vrais astronautes. » C'est plus subtil que ça. Donc, il peut y avoir un débat parce qu'en même temps, il y a une puissance, on va dire, géopolitique, dans la motivation des jeunes, et puis au-delà de ça, beaucoup d'entre nous, j'avoue que j'en fais partie, mais lucides, sont d'accord pour que quelques euros de nos impôts aillent dans ce projet, ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'humanité peut-être. Envoyer des hommes dans l'espace, envoyer des hommes vers la Lune, vers Mars, tout en restant lucide sur le fait quand même la priorité c'est sauver notre planète, lutter contre la pauvreté, des évidences comme ça. Mais il reste peut-être choses irrationnelles, hein, les conquérants de l'inutile. Voilà, et donc ça, c'est un troisième espace, je dirais, honnêtement, les astronautes. C'est quelque chose de particulier par rapport à la science pure et au business, à l'espace utile commercial.
Mais Nathalie Tingeau, c'est vrai qu'au XXe siècle, dans la deuxième partie, la génération a pu rêver en voyant le premier homme sur la Lune, en voyant les premières photos prises par les sondes voyageurs. Qu'est-ce qui nous fera rêver, nous, au XXIe siècle ? Est-ce que les Européens seront dans la course à la conquête spatiale ?
Alors, oui, évidemment. Vous voyez, par exemple, tout dépend de ce qu'on appelle conquête spatiale, évidemment. Alors, je voudrais juste corriger quelque chose qu'on a dit. On parle de business. Moi, je préfère parler d'espace utile. Parce qu'en fait, toutes les applications spatiales sont d'abord au service des citoyens, finalement. Au moment où vous vous levez le matin, entre le moment où vous levez et le moment où vous couchez, vous avez utilisé plus de 40 satellites pour votre vie quotidienne. Donc ça, c'est l'espace utile. Alors c'est sûr, il fait moins rêver.
Et il est important que les Européens soient dans cet espace.
Absolument. Et là, on y est totalement. Et je dirais, quand on parle de l'observation de la Terre, on est les meilleurs au monde. Avec, avec Copernicus, il n'y a pas mieux aujourd'hui. D'ailleurs, les Américains utilisent nos données. Donc vraiment. Donc,
qui permettent de relever les températures.
Qui permet de faire du monitoring, finalement, d'accord, de toutes les données terrestres, alors que ce soit les océans, le degré de salinité, et que ce soit les forêts. Et en plus, c'est un support aux politiques publiques, la sécurité, la sûreté. Donc ça, c'est l'espace utile. Et aujourd'hui, il y a une espèce de dépendance totale de l'humain à cet espace utile. Si on ferme tous les satellites aujourd'hui, d'accord, vous êtes en très mauvaise posture. Donc sur ça, on est très bien placé. On est placé sur tout le portefeuille d'activités dites espace utile.
C'est cette fameuse souveraineté dont on parle dans l'espace. Il faut que l'Europe ne soit pas dépendante des satellites chinois ou américains.
Et en plus, on peut les lancer, nos satellites, grâce à Ariane. Donc ça veut dire, si là on prend le volet business, on peut concurrencer les Américains et d'autres parce qu'on peut lancer nos propres satellites et donc on n'est pas dépendant de leur bon vouloir. Ils pourraient par exemple dire « Non, vous allez nous concurrencer sur ce segment, donc on ne lance pas vos satellites. »
D'ailleurs, je me trompe, mais si on a créé Ariane en 1979, c'était parce que les Américains avaient refusé voilà, de lancer un satellite pour la télévision.
Parce que, alors, Symphonie, je me souviens plus si c'était de la télévision, je suis pas très sûre, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, on est indépendant. Sur l'espace qui fait rêver, on est là aussi, puisque sur la science, on a des programmes absolument fantastiques en matière de science. Et puis, on va aller sur Mars avec notre robot en septembre, ExoMars. Donc, on a déjà une sonde qui tourne autour de Mars, et cette fois, on va poser un rover. Voilà, donc on est aussi sur ce segment. On a nos astronautes. D'ailleurs, la campagne de recrutement qui est en cours, pour vous dire, quand on a recruté Thomas Pesquet, on a eu 8000 candidats. Aujourd'hui, on a eu plus de 25 000 candidats. Et 8000, c'est quasiment le nombre de candidats français pour les astronautes. Donc là aussi, sur cet espace finalement inspirationnel, on est
pourquoi,
là.
Pourquoi ça a triplé le nombre de candidats? Comment vous l'expliquez?
Alors, d'abord, il y a
pour être astronaute.
D'abord, l'engouement extraordinaire avec l'émission de Thomas Pesquet, la première Proxima, la deuxième Alpha, qui nous a nous-mêmes dépassés à l'ESA. Moi, je me souviens, j'étais avec Thomas pour son départ à Baïkonour. On a été submergés par les demandes. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas complètement parce qu'en France, il y a quand même... le vol habité, c'est critique en France. D'un côté, on a 10 astronautes, on avait 10 astronautes français. On aime nos astronautes, mais quand il s'agit de financer, il y a toujours un peu de réticence, contrairement à l'Allemagne, qui était typiquement D'accord. dans le... Donc en France, il y avait une petite réticence. Bon, Thomas a réussi à convertir les cœurs, finalement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, il y a un énorme effort de communication qui est fait aussi sur ce qu'on appelle les STEM, c'est-à-dire l'éducation scientifique et technique. C'est quelque chose qu'on promeut énormément, notamment pour engager les femmes dans cette voie. Donc, c'est le produit de tout ça, finalement.
Quand on a 8 ans, on veut faire des maths parce qu'on va être astronaute, quoi. Si tu veux être astronaute, fais des maths. Et du coup, ça motive
les... Vous savez, moi, je suis très, très populaire au moment des stages de 3e et de 2e.
C'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants veulent faire des stages.
C'est exactement ce que vous dites. Moi, mon fils de 10 ans, évidemment, il a vu Thomas Pesquet. Je lui ai montré des vidéos. Je lui ai raconté, moi aussi, de ce que j'ai pu voir moi-même en tant que reporter au contact de Thomas Pesquet ou à Cap Canaveral, etc. Et lui, c'est vrai que c'est un de ses objectifs, c'est d'aller sur Mars. Il me le dit, clairement. Moi, ce que je vois, c'est que depuis 20 ans que je couvre cette actualité, le voyage vers Mars, c'est l'arlésienne. C'est-à-dire qu'en fait, plus j'avance, plus je vieillis, plus la date du premier pas sur Mars recule. Et pour la première fois depuis que je traite cette actualité, je vois que... il y a peut-être en effet quand même une petite mobilisation des différents pays, des différents acteurs, tout simplement parce que, il y a les États qui sont en train de se dire « Oh là, l'autre se réveille, il faut que je sois le premier ». Donc il y a une compétition géopolitique évidente, notamment entre les États-Unis et la Chine, et puis les Russes, et puis aussi un peu les Européens. Donc les Européens sont dans la roue des Américains, en tout cas pour l'instant, pour le vol habité, ça pourrait changer. Et puis il y a également des acteurs privés. Il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a du storytelling, ce qu'on appelle du storytelling de leur côté. C'est-à-dire que pour vendre leur système et leur...
pour vendre leur voiture, ils vous parlent de Mars.
Exactement, pour vendre leur industrie, pour vendre Starship, qui va participer au premier vol, par exemple, vers la Lune, etc. Elon Musk, il a besoin de faire rêver. Il nous abreuve d'ailleurs de magnifiques images. Je pense qu'il y croit lui-même, sur les temps passants. Je pense qu'il a sans doute un petit côté illuminé, mais c'est quand même un capitaine d'industrie. Et donc, il nous vend ce projet... pour aussi qu'on ait quelque chose et qu'il y ait une industrie derrière. 1 million de personnes sur Mars à l'horizon 2050, il n'y a pas besoin d'être très matérialiste pour dire que c'est totalement impossible.
Alors, pour aller sur Mars, encore faut-il avoir une fusée. Et les Européens se targuaient jusqu'à présent d'avoir la meilleure fusée au monde, c'était Ariane 5. Mais voilà, notre fusée Ariane 5 est très concurrencée aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous préparons la suivante, qui est Ariane 6. Vous voyez ce sujet de Gaspard de Florival.
3, 2, 1.
Dans sa course vers l'espace, la fusée américaine ici à droite a pris un meilleur départ et distance désormais sa vieille cousine européenne. En quelques années, le rapport de force a changé entre les deux programmes spatiaux.
3, 2, 1.
L'Europe avait pourtant régné sur l'espace durant 40 ans, de la mise en orbite de sa première fusée en 1979 au lancement d'Ariane 5. Confirmant son statut de lanceur le plus sûr de la planète.
Pour sa 100e mission, notre lanceur a une nouvelle fois parfaitement réussi. Félicitations à tous.
Mais voilà, ce monopole européen est attaqué depuis une dizaine d'années par un homme, Elon Musk. Le multimillionnaire américain patron de SpaceX veut dépoussiérer et gagner la bataille de l'espace.
Il faut raviver le rêve de l'espace et faire en sorte que les gens de tous horizons s'enthousiasment pour l'avenir.
Grâce notamment à ses fonds privés, Elon Musk développe une fusée en partie réutilisable plusieurs fois. De quoi diviser par 10 les coûts de production et casser les prix du secteur. Résultat, en 2020, les Américains réalisent 40 mises en orbite, une dizaine seulement pour les Européens. Elon Musk profite aussi d'un investissement massif du système public américain.
Les Américains, ils bénéficient de beaucoup d'aides publiques. Le budget, c'est 4 fois plus élevé dans le spatial aux États-Unis qu'en Europe. Ils peuvent casser les prix et Ariane doit s'adapter face à ça.
L'Europe parie désormais sur Ariane 6 en 2022, mais selon certains spécialistes, ces matériaux ne seraient qu'en partie réutilisables et le prix des futurs vols commerciaux 2 fois plus élevé que ceux de SpaceX.
Alors François Forget, c'est vrai, les Européens, avec Ariane 5, ont la fusée la plus fiable du monde, ce qui fait que Nathalie Tinjot me le faisait remarquer, quand on a un bijou à envoyer dans l'espace, comme le grand télescope James Webb, on va voir qui ? On va voir Ariane 5, parce qu'au moins on se dit celle-là, elle ne va pas exploser. Je vais être le mauvais Européen. Est-ce que justement, cette fiabilité à 100%, ça ne traduit pas aussi, de la part des Européens, un manque d'audace ? On a envie de dire, lui, Elon Musk, il teste sa fusée réutilisable qui se repose comme celle de Tintin sur une planète. Ben oui, de temps en temps, ça explose, mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu tête brûlée, un peu audacieux pour repousser les frontières quand on parle d'espace ?
Alors, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est vrai que Elon Musk a... SpaceX utilise des méthodes de développement un peu qu'on appelle agile parfois. Donc, on construit beaucoup, ça crache beaucoup. Par contre, il ne faut pas croire, la fusée commercialisée, que ce soit Ariane 5 ou Falcon 9, donc la fusée de SpaceX, elle est ultra fiable. D'accord. On ne peut pas s'amuser à être audacieux et vendre ça. Donc, non, la fusée la plus fiable au monde maintenant, je serais... Bon, évidemment, Ariane 5 a un tel passé, mais la fusée de SpaceX actuelle, la commercialisée, ouais, pas celle dont vous parlez, qui se crache tout le temps, la Falcon 9... qui ont fait plusieurs dizaines de lancements par an, hein, c'est autre chose qu'Ariane, pour être honnête, eh bien, elle est ultra fiable, donc non, votre argument ne fonctionne pas.
Alors,
et on espère qu'Ariane 6 sera tout aussi fiable, tout en étant beaucoup moins cher. Donc on gagne pas sur le coût en réduisant sa fiabilité, on gagne sur le coût en rationalisant le développement, en étant plus efficace. C'est autre chose.
Mais Nicolas Chateauneuf, j'ai l'impression qu'on fait Ariane 6, non pas pour aller sur Mars et pour en rêver, mais pour être 10 fois moins cher et balancer des satellites encore plus low cost autour de l'est de la Terre.
Oui, mais on ne peut pas se passer de ça parce que, comme disait Nathalie tout à l'heure, l'accès à l'espace, aujourd'hui, c'est absolument stratégique. Et aucune entité politique au monde ne peut se priver, si elle veut être dans la cour des grands, d'un accès à l'espace. Donc, pour l'Europe, il y a vraiment un challenge géopolitique d'avoir une autonomie stratégique pour envoyer ses propres satellites, pour également... Y compris, regardez, l'armée française, par exemple. L'armée française, elle a besoin de satellites pour communiquer, mais aussi de satellites pour observer les armées ennemies. Et si on n'a pas la capacité, par exemple, de se défendre contre des attaques de satellites d'autres puissances, ou bien d'attaquer nous-mêmes d'autres satellites d'autres puissances, eh bien, on a perdu les guerres du futur. Et donc, il y a toujours une compétition. Il ne faut pas se leurrer. C'est aussi, il y a une émulation. Cette compétition, elle crée aussi une émulation entre les pays. On le voit dans la conquête spatiale, c'est évident. Cet accès à l'espace, aujourd'hui, c'est absolument stratégique. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus.
Mais Nathalie Tinjot, quand Nicolas Chateauneuf disait tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait annoncer en Europe la création de vols habités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Européens pourraient concevoir une fusée dans laquelle ils pourraient emporter des spationautes.
Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Ariane 5 avait été conçue pour emporter l'avion spatial Hermès.
Ah oui, la navette
au sommet
européenne.
Et envoyer des Européens. Alors, comme je dis souvent, la légitimité de l'époque n'était pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est quelle décision est légitime à un moment donné. Il se trouve que le coût des développements de ce système à l'époque n'a pas été perçu comme légitime par le politique.
D'accord.
Donc, le programme a été réorienté. Mais à l'origine, Ariane 5 est dimensionné pour ça. On ne l'exclut pas pour Ariane 6. Il y a des projets en cours d'adapter Ariane 6 à du vol habité. Il y a aussi d'autres projets chez Dassault. Donc, si vous voulez, est-ce que ce sera une capsule qu'on mettra sur un lanceur ? Est-ce que ce sera un avion spatial ? Il y a des projets actuellement. On attend effectivement le discours du président, qui pour l'instant est secret. Donc on va voir ce qu'il va proposer.
Alors justement, pour l'instant, la fusée Mars, on y va, mais on y envoie des robots, on en envoie de plus en plus. Y enverra-t-on un jour un homme ? Est-ce que c'est possible d'envoyer un homme sur la planète Mars ? Quel sera le trajet ? Je vous propose d'abord d'aller faire un petit tour sur cette planète Mars. Tendez bien l'oreille. Parce qu'on a beaucoup d'images, on a beaucoup de photos, mais même maintenant, on a du son de Mars. Tendez bien l'oreille, vous allez entendre dans ce sujet le son, le bruit du vent sur Mars. C'est captivant, sujet de Diane Schlinger.
Fermez vos yeux et juste imaginez vous asseoir sur Mars et écouter ce qui vous entoure.
Un souffle d'air d'apparence ordinaire. Et pourtant unique, historique.
Oui, ce que vous venez d'entendre pendant 10 secondes est bien une bourrasque de vent sur la surface de Mars, capturée par le micro et renvoyée sur Terre pour l'heure.
Après 7 mois de voyage, la mission américano-européenne vient d'arriver sur Mars et pour la première fois, cet amarcissage si périlleux a été filmé par plusieurs caméras. Un parachute supersonique est déployé dans le ciel bleuté, caractéristique de Mars. Le bouclier thermique est largué. Le sol se rapproche dans un nuage de poussière martienne.
Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que c'est très brumeux. On arrive sur le delta. Là on a une voiture d'une tonne, enfin l'équivalent d'une voiture d'une tonne qui se pose et qui est sous un réacteur et qui va chercher le très bon endroit pour se poser sans très gros rochers et dans une zone bien plane.
Le robot atterrit dans le cratère G0, qui il y a plus de 3 milliards et demi d'années aurait abrité un profond lac d'environ 50 km de diamètre. Rien que ces images et ce son de vent sont déjà un exploit historique. Mais ce n'est que le début de la mission de Persévérance. D'ici 2023, le robot va collecter des échantillons du sol martien pour trouver de potentielles traces de vie ancienne sur la planète rouge.
Alors, François Forget, on le voit, on arrive à envoyer sans problème l'équivalent d'un véhicule d'une tonne sur la planète Mars, qui atterrit sans encombre. Qu'est-ce qui empêche, à la place de ce véhicule d'une tonne, de mettre une capsule avec, tiens, pourquoi pas, Nicolas Châteauneuf dedans et d'y envoyer dans un scaphandre Je suis sûr que vous seriez candidat, Nicolas.
Ah oui,
Alors, moi aussi. Non, vous avez raison, physiquement, le problème est à peu près le même. Ce serait quand même une capsule beaucoup plus massive, il faut pouvoir y rester, etc. La grande difficulté, c'est que c'est vraiment très loin, et donc il faut beaucoup...
Ça veut dire quoi, très loin ? Très long, ça veut dire ?
Oui, typiquement, pour aller... Alors, vous savez que pour aller sur la Station Spatiale Internationale, il faut quelques heures. En fait, c'est à 400 km. La Lune, c'est à 300 à 400 000 km. Donc, il faut 3 jours, on va dire. Et pour aller sur Mars, là, on est encore 1000 fois plus loin. Il faut à peu près au moins 6 mois. Donc, ça veut dire que, pour faire très rapide, pour aller sur Mars, il faut construire un vaisseau spatial extrêmement fiable, réparable, etc., dans lequel on peut mettre des hommes qui va faire le voyage aller, donc 6 mois aller, se mettre en orbite. Il faut un système pour descendre à la surface. C'est très difficile sur Mars, parce que l'atmosphère est là, mais elle est trop fine pour utiliser vraiment bien les parachutes. Une fois à la surface, il faut y vivre. Donc, il faut construire un habitat, des scaphandres, c'est beaucoup de travail pour faire. Il faut une fusée pour redécoller. La gravité est plus importante que sur la Lune, donc il faut une petite fusée Ariane, si vous voulez. La gravité est moindre que sur Terre, heureusement, mais quand même. Ensuite, il faut rentrer et assurer pendant ce temps-là toute la sécurité et la santé des astronautes. Donc, il y a des problèmes de radiation, des problèmes d'impesanteur. Donc, vous avez beaucoup de défis à relever. Et en pratique, ça veut dire beaucoup d'argent à investir pour que les ingénieurs construisent tout ça, testent tout ça. Donc, c'est la première difficulté, évidemment, c'est les moyens qu'on va mettre là-dedans. Mais techniquement, c'est vrai que on pourrait résumer ça comme ça. C'est plus facile maintenant d'imaginer de développer une mission vers Mars en 2022 que construire une mission vers la Lune dans les années 60.
Ah oui ?
Bah oui, mais quand même, dans les années 60...
C'est une question de volonté, vous dites. Dans les années 60, on avait la volonté. On n'ira pas sur la Lune parce que c'est facile, mais parce que c'était difficile, c'est ce qu'avait dit Kennedy.
Tout à fait.
Et il l'a fait en moins de 10 ans.
Oui, mais il l'a fait, c'était dans un contexte de guerre froide, il y avait une motivation très importante. Alors,
ils ont mis énormément d'argent sur la table. Ils ont mis des sommes folles pour l'époque, une part non négligeable de l'ordre du PIB des États-Unis quand même.
Nicolas Châteauneuf, il y a bien des astronautes, ou comment on dit, des cosmonautes russes qui sont restés plus d'un an dans l'espace. Mm-hmm. Bon, c'est bien la preuve qu'on est capable de dire bye-bye la Terre pendant un an.
C'est sûr.
Donc s'il faut 6 mois pour y aller, on se dit il manque juste la voiture.
Il y a une petite différence, juste précise, c'est que dans le voyage vers Mars, c'est pas un peu pareil pour la Lune, on n'est pas protégé des radiations comme le sont les astronautes dans la Station spatiale internationale, ce qui fait qu'il y a un nouveau défi, un nouveau problème de santé qui est le danger des radiations venues du Soleil et de la galaxie, ce qu'on appelle rayon cosmique. Et donc, ça, c'est un nouveau défi à relever que n'ont pas eu à affronter
les cosmonautes.
Ses collègues,
Quand vous regardez, quand vous étiez cosmonaute à bord de Mir ou bien dans la station spatiale, vous allez au hublot ou près de la coupole et vous voyez la Terre. Elle est là, elle passe.
Et c'est rassurant, ça, dans la tête?
Ah, totalement. C'est votre maison. Hein. Tout ce que vous connaissez est là, juste sous vos pieds. Vos amis, votre maison, tous les paysages, tout ce que vous connaissez est là. Si vous partez sur Mars, vous ne voyez plus du tout la Terre. Elle n'existe plus, en tout cas dans le champ visuel. Et puis même les communications avec la Terre sont beaucoup plus compliquées, elles sont beaucoup plus longues, parce que entre le temps que la question arrive, si vous posez une question et que la réponse revienne, il se passe plusieurs minutes. Donc il faut qu'il y ait une certaine autonomie de la part des astronautes. S'ils ont un problème de santé, ils doivent le gérer tout seuls. S'il y a une tempête solaire, comme disait François, il faut prévoir une zone de blindage, une zone blindée qui les protège des rayonnements solaires. Ça, il faut l'imaginer. Ils auront de toute façon, il faut le dire, un risque de développer un cancer un peu plus élevé quand ils reviendront, parce que ils ont encaissé plus de radiation que un humain sur Terre.
Nathalie Tinjot, quand les Américains sont allés sur la Lune en 69, ils y sont allés tout seuls. Est-ce que là, les Américains, est-ce qu'il y a une coopération internationale? Et en toile, en ligne de mire, il y aurait cette idée que si les Américains devaient aller sur Mars, ils nous associeraient, peut-être également les Russes. Est-ce qu'il y a cette volonté, cette idée que les Américains n'iraient pas seuls cette fois-ci sur Mars? Alors, si tant est qu'ils aient cette idée en tête.
Déjà, ils ne vont pas aller seuls sur la Lune, puisqu'actuellement, il y a le programme Artemis qui démarre, là.
Bon, ils veulent retourner sur la Lune. Hein.
Oui, là, parce que avant d'aller sur Mars, effectivement, il faut qu'on acquière un certain nombre de technologies et de notamment dans le domaine du support vie. Il faut qu'on aussi développe des formes d'habitat. Et là, la Lune est un terrain d'entraînement pour développer toutes ces technologies et toutes ces connaissances. Et donc là, Artemis, on va d'abord avoir une première étape qui est le Gateway. C'est-à-dire une station qui va se rapprocher, une station spatiale qui va se rapprocher de la Lune. Et puis, ensuite, il y a l'idée, effectivement, d'aller sur la Lune. Et là, pour vous dire, dans la Station spatiale internationale, qui est un grand projet en coopération avec 5 pays, notamment les Russes, les Européens...
Là, on ne se fait pas la guerre avec les Russes. Hein. Ils sont nos amis dans l'espace.
C'est la diplomatie spatiale, effectivement. C'est un univers un peu préservé de ce qui se passe sur Terre. C'est lié à l'interdépendance et puis c'est lié aussi à une forme de soft power et de volonté politique d'utiliser l'espace à des fins pacifiques. Donc, le Gateway, effectivement, un programme lunaire. Et on était le quatrième partenaire dans le cadre de la station spatiale en termes de contribution. Là, on appelle ça des barter elements. C'est-à-dire, on ne donne pas de l'argent à la NASA. On a donné un laboratoire, qui est le laboratoire Columbus. Avec la TV, on a ravitaillé la station. Au moins 5 fois. Donc voilà, on fournit et on
pas avec un carnet de chèques, mais en nature.
Voilà, dans le Gateway, dans le projet Gateway, on est le deuxième partenaire. Et notamment avec le service module européen, on fournit de la technologie critique pour la NASA. C'est-à-dire, si on ne fournit pas cette technologie, on ne part pas.
D'accord.
Voilà, sur le module Orion. Donc ça, c'est quand même très
preuve
important.
De la participation des Européens. Juste un mot, parce que vous disiez il y a une coopération dans l'espace. Non, il y a un pays qui fait cavalier seul et qui est tout seul, d'ailleurs, qui n'a pas le droit, si je me trompe, d'aller dans la station internationale, l'ISS. C'est la Chine. La Chine qui fait toute seule et qui a réussi toute seule à poser un robot sur Mars. Voyez ce sujet de Pierre-Yves Salic.
Ce sont des images de synthèse, mais l'atterrisseur Tianwen s'est bien posé cette nuit sur Mars. Pour un coup d'essai, c'est réussi, les Chinois peuvent être fiers. Avant eux, Russes, Américains et Européens avaient connu de nombreux échecs. Dans l'atterrisseur, un robot de 240 kg, Zhurong, peut commencer sa mission géologique de 3 mois. Zhurong s'est posé à Utopia, dans l'hémisphère nord, non loin de Perseverance, le rover de la NASA, qui depuis 3 mois recherche des preuves de vie passée. Le rover Zhurong, lui, se contente de cartographier son secteur. Mais les Chinois affichent désormais leurs ambitions. Outre Mars, l'objectif, c'est aussi la Lune. Après des robots lunaires, ils veulent envoyer des hommes sur une base habitée.
Alors Nicolas Chateauneuf, est-ce que l'appétit chinois pour Mars pourrait réveiller ou titiller l'appétit américain? Vous disiez tout à l'heure, dans les années 60, les Américains, ils ont mis le paquet parce qu'ils avaient les Russes qui leur faisaient...
Il y avait une humiliation terrible avec Spoutnik, notamment. Donc ça, les Américains avaient du mal à le digérer. Mais c'est vrai que oui, il y avait une compétition géopolitique. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs quelque part horrible de dire ça, parce que quand on est spectateur de secteur spatial, quelque part, on ne peut que se réjouir de cette compétition, alors que fondamentalement, on aimerait bien que les pays puissent se lancer dans ces programmes sans forcément qu'il y ait derrière des compétitions géopolitiques extrêmement féroces. Mais c'est la
nature humaine.
C'est la nature humaine, c'est comme ça. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois, ils surprennent tout le monde, parce que je me rappelle, il y a une dizaine d'années, c'était les premiers taïkonautes, et en fait, ils vont très très vite, mais ils ont investi, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait sur la longueur, qu'ils ont planifié, etc. Et ils ont posé un robot sur la Lune, ensuite un robot sur Mars, avec des technologies qui ont quand même été complexes à acquérir pour les Européens et les Américains. Il y a quand même eu beaucoup d'échecs sur Mars. Donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Il y a une vraie volonté de leur part d'avoir aussi cette autonomie stratégique et cette dimension géopolitique. Et oui, ils relancent totalement la conquête spatiale. C'est vrai, c'est un fait.
Et François Forget, est-ce que leur volonté d'être numéro un ne les rend pas plus audacieux? Est-ce que les Chinois pourraient prendre des risques? Parce que l'espace, c'est le risque, hein, ça peut mal tourner. On se souvient de Challenger qui a explosé en 86.
Et Columbia.
Est-ce que les Chinois ne pourraient pas, en prenant plus de risques, en étant plus audacieux, d'amener le pion des Américains? C'était très risqué, les missions Apollo dans les années 60, d'ailleurs. Est-ce qu'on reprendrait le même risque aujourd'hui?
C'est une bonne question. Je crois qu'on prend des risques, de toute façon, dans le spatial, et je pense qu'on est toujours prêt à en prendre. Mais pour ce qui concerne les Chinois, ils restent assez prudents quand même. Audacieux et prudent, c'est comparable vraiment à ce qu'on fait nous, ce qu'on fait les Américains. Le programme de développement, en particulier des taïkonautes, donc des astronautes chinois, est assez ambitieux. Pas ultra rapide non plus, hein, puisque le premier taïkonaute, c'est au début des années 2000. Là, ils sont en train de développer une vraie station spatiale. Hein, cette année, il y a plusieurs modules en l'air, ça va être terminé cette année. Et puis, il y a cette idée d'aller sur la Lune, mais il n'y a pas un calendrier aussi rapide que les Américains. Ils ne vont pas doubler les Américains dans le retour sur la Lune. Par contre, honnêtement, par exemple, cette mission...
Le premier homme sur Mars, il sera américain ou chinois, selon vous? Ou femme?
Pour l'instant, comme ça, c'est plutôt les Américains et Européens qui sont en premier. On peut même imaginer... Là, on parlait
Américain, européen, on pourrait imaginer trois humains, dont un européen, un équipage de trois humains, dont un européen.
Si on compare, regardez, dans les années 60, les missions Apollo...
Trois Américains.
C'était surtout motivé par une compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ensuite, dans les années 2000, la Station spatiale internationale, projet vraiment très ambitieux, il faut se rendre compte ce que c'est quand même. Et bien là, pour le coup, une des motivations géopolitiques, c'était au contraire la réunion, la collaboration, le soutien à l'industrie russe. Et donc, finalement, il y avait une espèce de réunification à la fin de la guerre froide symbolisée, et c'est toujours le cas, malgré les tensions actuelles. Et vous avez quand même des Russes et des Américains qui travaillent au quotidien dans l'espace. Alors pourquoi pas? Peut-être que, ok, la Lune, là, ça va être quelque chose, un petit peu une petite rivalité. Les Américains vont retourner avant les Chinois sans problème, je pense. Et peut-être qu'une mission martienne qui suivra, peut-être, sera motivée, elle, par une petite à nouveau réunion. Je suis un peu bisounours en disant ça, mais le spatial, scientifique et astronautique, est un petit peu bisounours quand même dans certains aspects.
Nathalie Tinjo?
Oui, ouais. Je voulais préciser que la Chine a publié un white paper, enfin un livre blanc, là, fin janvier, avec, en déjà revenant sur tout ce qu'elle a fait et sur le dernier plan quinquennal, elle a réussi tous ses objectifs. Et pour le prochain, effectivement, alors elle développe tout ce qu'elle veut faire. Et pour ce qui est de Mars, puisqu'on parle de Mars, on parle de retour d'échantillons. Pour l'instant, on en est là, comme d'ailleurs les Européens.
Ce qu'on n'a jamais fait, alors qu'on l'a fait de la Lune. Hein. Voilà, on va prendre une pierre et on la ramène sur Terre.
Voilà, c'est ça, le stade des prochaines années, c'est le retour d'échantillons martiens.
Enfin, si on est capable de ramener un échantillon, ça veut dire que demain, on sera capable de ramener un homme.
Avec persévérance, il y a déjà une collecte d'échantillons qui est prévue et qui sera récupérée dans quelques années.
Et qu'on va aller chercher.
Alors, serait-on capable de vivre sur Mars, puisque tel est l'objectif notamment d'Elon Musk? Écoutez, il y a déjà des projets de villes ou de capsule hein, pour survivre dans un environnement hostile, sans eau, sans oxygène ni nourriture. Je vous propose de voir ces projets de base martienne par Simon Ricotier.
C'est une capitale presque comme les autres. Des logements futuristes au milieu du désert. Voici Niuwa, la première ville martienne, telle que la souhaiterait Elon Musk. Le milliardaire. C'est une capitale presque comme les autres. Des logements futuristes au milieu du désert. Voici Niuwa, la première ville martienne, telle que la souhaiterait Elon Musk. Le milliardaire se verrait bien s'y installer dans moins de 10 ans. Un projet fou, celui de la colonisation de Mars qui fascine les scientifiques. Cette semaine, une marche de plus a été gravie grâce à Perseverance. Le robot de la NASA, posé sur la planète rouge en février dernier, a fabriqué de l'oxygène. Une première. C'est ce boîtier intégré au rover qui, après avoir capté le dioxyde de carbone qui compose l'essentiel de l'atmosphère martienne, a créé 5 grammes d'oxygène via un procédé chimique, suffisant pour permettre à un astronaute de respirer pendant 10 minutes. De l'oxygène, un préalable essentiel pour envisager la vie sur Mars. Les scientifiques sont divisés sur la faisabilité d'un tel projet, mais s'accordent sur un point, de nombreux obstacles techniques empêchent encore ce grand voyage.
Certains pensent qu'on ne pourra jamais y aller. D'autres considèrent qu'on en fera d'abord le tour et qu'on réussira à se poser et à revenir. Ça sera une démonstration un peu stérile. Et d'autres, comme Elon Musk, pensent qu'on pourra s'y établir et qu'on y établira des colonies.
Alors pourra-t-on un jour survivre sur la planète rouge, comme le héros du film Seul sur Mars ? Les échantillons que rapportera Perseverance en 2031 aideront les scientifiques à répondre à cette question.
Alors Nicolas Châteauneuf, j'imagine, on a tous vu ce film Seul sur Mars avec Matt Damon. Il survit, il fait même son potager sur Mars. Il réalise ce film plusieurs mois. Hein.
Alors ça, c'était drôle parce que quand je l'ai regardé, je l'ai vu au cinéma, il y avait des petites choses qui m'ont titillé. Bon, le film est extraordinaire, mais voilà, il faut aimer les pommes de terre, il faut aimer la patate, comme on dit. Il y avait plusieurs choses qui m'avaient un peu titillé. Par exemple, la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur avec juste une bâche plastique. Et puis le fait également que le sol martien ne peut pas être utilisé directement comme ça pour planter des...
Je peux pas mettre une graine de carotte et manger ma carotte.
Non, ça va pas sans doute très très bien marcher parce qu'il y a une composition minérale et des oxydes etc qui vont pas forcément favoriser la pousse.
Donc ma carotte sera toxique.
Un traitement. Ouais, ça va pas très très bien fonctionner. Mais après sur le film, je trouve qu'il montre très bien la difficulté tout simplement d'établir un support vie, c'est-à-dire un support avec de l'eau, de l'oxygène, la pression adéquate, de la nourriture, de l'énergie pour des êtres humains. Parce que des êtres humains, ils ont besoin de tout ça. Ils ont besoin de ils peuvent pas enlever le casque et respirer l'air martien.
Si je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive d'ailleurs ?
Vous allez avoir quelques soucis très rapidement. Vous allez perdre connaissance et d'abord il y a une température qui est la température oscille, mais elle est quand même Mars est un désert froid. Vous avez une pression atmosphérique qui est plus faible également, donc pour résumer, vous allez commencer à faire des bulles avec votre sang et
parce que l'eau boue à très basse température.
En fait, la pression est très faible en fait, donc
tout boue. Donc,
très vous vite. Allez, oui, c'est ça. Vous allez voir commencer à tomber en syncope. Oui.
François Forget, on disait tout à l'heure qu'on allait récupérer des échantillons sur Mars et qu'on allait les rapporter sur Terre. Avec quel objectif ? Est-ce qu'on a toujours cette idée de chercher la vie sur Mars ? Alors on sait qu'maintenant il n'y a pas de petits bonshommes verts, sinon les robots les auraient rencontrés. Mais l'une des questions que se pose l'humanité, c'est est-ce que la vie n'est apparue que sur Terre ou est-ce qu'elle pourrait... je ne sais pas si on mettait un microbe sur Mars, est-ce qu'il pourrait survivre ou est-ce qu'il y en a eu ? C'est ça l'une des questions aussi inconscientes que l'on a en tête quand on fait de l'espace ?
Alors on va faire plein de sciences avec les échantillons qu'on va rapporter. Hein. Mais c'est vrai qu'une des grandes motivations, c'est cette enquête qui dépasse largement Mars. La question est la suivante, c'est si vous avez sur une planète, ça peut être Mars, mais ça peut être autour d'autres étoiles, si vous avez de l'eau liquide, comme sur Terre, on sait que quand il y a de l'eau liquide, la vie est active, il y a du métabolisme, elle se reproduit, etc. Est-ce que la vie démarre dans l'eau liquide facilement ou pas facilement ? Il se trouve que, OK, Mars aujourd'hui est un désert froid et aride, donc il n'y a pas d'eau liquide, donc pas trop de vie. Par contre, on sait que dans sa jeunesse, il y a 3-4 milliards d'années, à l'époque où la vie est apparue sur Terre, eh ben, il y avait des lacs et des rivières sur Mars. C'est une planète très différente. Donc aujourd'hui, un robot comme Perseverance, il va au fond d'un ancien lac, il y a un delta, c'est magnifique, on a l'impression de voir une rivière. Enfin, il y a une rivière qui est arrivée là, il y a des sédiments. Et évidemment, c'est très motivant d'aller regarder si on voit des fossiles. Alors, si on trouve un coquillage, ça aidera beaucoup. Mais ce qu'on va faire surtout, donc, c'est rapporter des échantillons. Et en les rapportant sur Terre, on pourra les analyser en laboratoire avec des techniques extraordinaires qu'on ne peut pas avoir sur place. Et on va mener cette enquête-là. Et on ne peut pas perdre, hein, parce que soit on trouve quelque chose. Donc là, ce sera vraiment une confirmation très impressionnante. Mais on peut aussi ne rien trouver du tout. Là aussi, ce sera quand même un indice que ce n'est pas évident. Ou alors trouver des étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout sur Terre. Bref, c'est une enquête absolument passionnante. Et je dois reconnaître, oui, on a beau faire les scientifiques sérieux, que la motivation numéro un, c'est quand même cette enquête sur la vie, l'origine de la vie, la possibilité d'une vie ailleurs. Ouais.
Alors, Nathalie Tinjot, François Forger disait, quand il y a de l'eau, il y a les conditions pour qu'il y ait de la vie dans le système solaire. On sait qu'il y a des endroits où il y a de l'eau liquide. On va voir deux satellites. L'un, le satellite de Saturne qui s'appelle Encelade, sous la croûte. On est quasi sûr maintenant, il y a de l'eau liquide. Et c'est pareil pour le satellite de Jupiter qui s'appelle Europe. On pourrait très bien envoyer là-bas des petits robots qui iraient forer, qui iraient voir, aller regarder un petit peu en dessous de la comme sur l'Arctique, hein. Allez, on passe la croûte et en dessous, on a de l'eau. Et peut-être qu'il y a des petits poissons qui font bloup bloup.
Il faut alors là, foreuse. Là, c'est plutôt une question pour François. Mais moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait plus peur? Qu'on découvre qu'on est seul dans l'univers ou qu'on découvre qu'il y a de la vie ailleurs?
Vous avez 4 heures. Alors, François Forger, non, vous savez pourquoi je disais ça? Parce que je pensais que vous allez me dire, mais on est capable de le faire. On va regarder les images. Les Européens ont envoyé sur Titan, qui est un satellite de Saturne, et c'est fascinant parce oui, que là, pour oui. le coup, c'est très très loin. On est au large de Saturne. On a envoyé un robot qui a pris des, qui s'est posé. On va voir les images. Ben, je vous laisse les commenter puisque c'est l'Europe qui a. Là, je me trompe ou pas? C'est l'Europe oui, qui
là,
a.
Là, c'est Cassini. On voit Cassini qui largue Huygens, qui est le petit robot qui est rentré dans la.
Qui a été fabriqué à Toulouse, hein, ou je sais pas où.
Qui a été fabriqué par l'Europe, en tout cas.
Voilà. Et alors là, on est à côté de Saturne, hein, donc des anneaux de Saturne.
C'est enfin, ça. Sur la planète, ce sont des reconstitutions qui ont été faites à partir des photos qui ont été prises lors de la descente de Huygens. Il faut savoir qu'on a perdu la moitié des photos en cours de route, mais bon, c'est pas grave. Et ce que vous voyez là, c'est les reliefs, en fait. Les reliefs, il faut savoir que Titan, c'est une Terre congelée à moins de 250 degrés. Et vous avez, en fait, au lieu d'avoir de l'eau liquide et des nuages d'eau liquide, etc., vous avez des lacs de méthane et des lacs et des puits d'hydrocarbures, en fait.
C'est-à-dire que le méthane là-bas est de l'eau et liquide.
Hein, vous avez des lacs de méthane.
Et l'eau
liquide,
est solide comme la, et dure comme la pierre.
Mais comme il fait très très froid, en fait, ça ne se comporte pas comme sur Terre. Ce n'est pas sous forme de gaz, mais sous forme de liquide, en fait. Et vous avez également, si je me souviens bien, de la glace de dioxyde de dioxyde de carbone, si je me souviens bien. François, et puis du méthane, des hydrocarbures.
En fait, la surface est complètement recouverte d'espèces de suie, de plastique, on pourrait dire ça comme ça, qui se forment dans la haute atmosphère et qui descendent. Et donc, vous avez cette surface marronasse et qui, en fait, est couverte de polymères organiques. Donc, c'est d'une richesse en termes de chimie organique. Finalement, c'est la biochimie.
Et voilà.
Mais à très basse température, qui est assez fascinante.
Alors, ça, c'est la photo. Alors, cette photo, c'est pareil. Là, ce mouvement-là que vous voyez, il a été reconstitué plus tard. Par contre, et le relief également. Par contre, la photo qui a servi à ça, elle a été vraiment prise par Huygens à la surface de Titan et avec cette atmosphère orangée.
C'est incroyable de se dire qu'on est capable d'aller dans la banlieue de Saturne.
Pour vous dire, est en développement avec une participation française un nouvel engin qui va faire la suite de ça, qui s'appelle Dragonfly, et ça va être un espèce de gros hélicoptère avec 8 hélices qui va se promener à la surface de Titan à suivre. Hein, ça va être extraordinaire.
Ah ouais, on y retourne sur Titan.
On y retourne, ouais. C'est en construction.
Déjà, c'était une prouesse extraordinaire.
2006, hein.
C'était 2005.
Ouais. C'est 2005, ouais. 2005. Début 2005.
Il y a deux choses absolument extraordinaires parmi les choses que l'Europe a faites. C'était l'atterrissage sur Titan et puis l'atterrissage sur une comète. Et je me souviens que le chef de la science de la NASA, quand on l'a fait, il a dit « They did it ». Ouais. C'était vraiment, l'atterrissage sur la comète, c'était vraiment quelque chose
d'extraordinaire. Donc, je reviens à ma question. On pourrait très bien envoyer une foreuse de la même façon sur Encelade ou sur Europe, qui sont des satellites de Titan et de Jupiter, pour aller creuser la glace et voir ce qu'il y a dans les océans.
Il faudrait un forêt quand même très long. Quand même, ouais. Hein.
Alors, on mène l'enquête sur ces mondes-là. En particulier, on a une mission qui va partir cette année vers le système de Jupiter, donc pour étudier Europe notamment, Ganymède aussi, d'autres lunes de Jupiter qui ont aussi des océans sous la surface. pareil pour Encelade. Par contre, et les États-Unis, pareil, qu'ils ont une mission qui s'appelle Europa Clipper, qui va justement étudier Europa, donc Europe. Par contre, je dois vous dire que, même si après on a le projet de s'y poser, l'idée de pouvoir forer, il faudrait forer plusieurs dizaines de kilomètres, c'est un défi extraordinaire.
La croûte glaciaire fait plusieurs dizaines de kilomètres.
Ouais, mais tout n'est pas perdu. On a c'est quand ça. Même dans l'idée, il y a quand même là-dedans des failles. Vous avez de l'océan qui jaillit à la surface, ouais. Qui gèle. Hein. Mais on peut aller voir, si je suis votre exemple, s'il n'y a pas des petites crevettes gelées là, qui ont été étalées à la sortie. Alors c'est un monde d'eau liquide dans les ténèbres. Hein. Il n'y a pas de photosynthèse. Ce serait un petit certainement pauvre. Mais franchement,
vie au fond des fosses Mariannes apparaît. Sur
mais vous avez raison. C'est un endroit absolument fascinant. Les océans qui sont en contact avec du volcanisme hein, sur Europe, il peut se passer des choses. On veut mener l'enquête. C'est très difficile d'accès, mais on mène l'enquête.
Sur les failles, sur les failles, les dorsales océaniques sur Terre, vous avez de la vie qui est parfois basée sur la chimie, en fait, sur tout ce qui sort de ces fumerolles, de ces cheminées à très haute
température.
Au fond
des océans terrestres.
Exactement. Là, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si la vie a été, si c'est une colonisation de la vie qui a émergé ailleurs et donc dans un contexte très compliqué, mais où la vie a
quand même... Si elle est née spontanément là.
Ou si il y a eu une forme de développement totalement différent. Et pourquoi ne pas imaginer, en effet, dans ces océans ténébreux, une forme de vie totalement différente ? Encore faut-il qu'on sache dans quelles conditions précises, etc., la vie apparaît. Et ça, il y a encore quand même des incertitudes.
Et dans les programmes qu'on va discuter cet après-midi au Conseil de l'ESA, il y a la possibilité d'avoir un retour d'échantillon d'une lune glacée de Jupiter ou de Saturne. C'est ce qu'on appelle un inspirateur, un programme un peu inspirationnel dans les choses qu'on veut discuter cet après-midi.
Avec toujours beaucoup de précautions, parce que si on ramène un coronavirus mortel...
C'est ça, il y a des précautions. Hein. Et vous voyez, typiquement pour ces missions, là, il vaut mieux les robots. Mieux des robots. On parlait tout à l'heure de l'exploration du système solaire. C'est évident que là, pour l'instant, les robots, les sondes, c'est beaucoup plus efficace.
Mais je parlais de Titan, on est beaucoup plus loin que Mars.
Puis pourquoi envoyer un homme là-bas ? Ce serait prendre des risques absolument inconsidérés pour finalement rien faire du tout de plus qu'un robot.
Retour sur Terre, enfin, dans la banlieue immédiate de la Terre, c'était il y a un peu plus de 50 ans, le 21 juillet 69, pour la première fois, l'homme posait le pied sur Mars et nous sommes sur la Lune. Et nous sommes nombreux à nous en souvenir, à avoir été réveillés au milieu de la nuit pour assister à cet événement. Retour sur l'homme sur la Lune avec Bernard à Paris.
3h56, heure française. Neil Armstrong pose le pied à la surface de la Lune.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité.
Un moment historique partagé par 600 millions de téléspectateurs et d'auditeurs à travers le monde. Au musée de l'air et de l'espace, dans ce petit salon vintage reconstitué pour l'occasion, Eliane, 11 ans à l'époque, se souvient de cet événement vécu dans un petit village d'Auvergne.
Tout le village est venu voir cet exploit à la télévision. Et là, il y avait les commentaires, il y en a qui disent « Oh là là, les anciens, mais ils ont marché sur la Lune, ils vont tout nous casser, les cultures n'ont plus fonctionné, etc. » Puis les autres, plus modernes, disaient « Ben non, c'est super, on voit la Terre de loin et tout, c'était vraiment un événement. » Et nous, les petits, on disait « Mais on les voit pas là-haut, on les voit pas marcher sur la Lune. » Mais on était épatés par les bons qu'ils faisaient à la télé sur la Lune, c'était génial.
Moment irréel, avec des images venues des profondeurs de l'espace, monde inconnu, exploit incroyable qui a marqué à jamais les esprits de ceux qui ont vu.
J'avais 5 ans, mais je revois bien le poste, je pourrais même vous décrire la scène, enfin la salle, avec la cheminée sur le côté, une table, enfin vraiment, je pourrais vous le décrire, parce que vraiment ça m'a marqué, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance.
D'autres ont été tirés du lit par papa pour assister à l'événement.
Il a insisté, il m'a dit, il faut absolument que tu viennes voir cela, parce que c'est une chose unique qui se reproduira peut-être pas, mais c'est un grand jour, il faut que tu viennes voir cette émission.
Même sans les images, l'émotion, 50 ans après, reste intacte.
C'était le soir et on écoutait. Les commentateurs parlaient. On était ébahis, étonnés, c'était merveilleux.
Pour certains, ce moment a décidé d'une passion, d'une vie. Ils ne sont jamais totalement revenus de la mer de la tranquillité.
Bon, j'étais un petit garçon, mais bon, je me suis levé en pleine nuit, évidemment, pour voir l'événement sur une télé que mes parents avaient achetée peu de temps auparavant. Non, je vous assure, je m'en souviens très très bien. Et je pense que peut-être je peux dire aussi que ça a probablement joué un rôle dans le choix de ma carrière ensuite.
Aujourd'hui, les projets de retourner sur la Lune se multiplient et même peut-être d'y installer une base. De quoi faire à nouveau rêver.
Bon allez, François Forget, est-ce qu'on vivra la saison 2? On a marché sur Mars. Est-ce que notre génération connaîtra les mêmes images, mais avec Mars?
Comme on disait tout à l'heure, c'est une bonne question, parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. Donc c'est une très bonne question. Mais les choses ont changé, faut reconnaître. On a plus la station spatiale, Soyouz, la navette spatiale. Il y a de nouveaux lanceurs. Cette année, là, en 2022, il va y avoir 4-5 nouveaux types de fusées, dont des fusées ultra géantes pour aller vers la Lune, préparer le voyage vers Mars. Donc c'est en développement. Et oui, moi je pense que de notre vivant, à tous, nous allons voir une mission vers Mars, au moins une mission en orbite vers Mars. Et retour.
Humaine.
Une mission humaine, allez, bien
sûr. Ah bah si, c'est pas drôle. Hein.
Et donc, oui, je pense qu'on va voir ça. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était passionnant, on a tous rêvé en attendant que le rêve devienne réalité. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.